Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Philippe David.
C'était il y a 70 ans, le 25 juin 1950, 600 000 soldats nord-coréens franchissaient la frontière avec la Corée du Sud. C'était le début de la guerre de Corée. Nous sommes en compagnie de Pascal Daillé-Burgeon, auteur de nombreux livres sur la Corée, dont « Histoire de la Corée des origines à nos jours » et de « La dynastie rouge », un livre traduit en coréen. Pascal Daillé-Burgeon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, comment la Corée s'est-elle retrouvée coupée en deux, comme la RFA et la RDA ?
Oui, on peut dire ça. C'est à cause de la Seconde Guerre mondiale et du fait que dès 1945, en fait, les deux alliés que sont les États-Unis et l'URSS à l'époque sont en concurrence pour l'hégémonie mondiale. Donc la Corée, qui était depuis des millénaires indépendante, avait été conquise et occupée par le Japon en 1910. Elle a été libérée en 1945, mais elle a été libérée par les Américains au sud et par les Soviétiques au nord, qui ont au fond créé deux États satellites. Voilà pourquoi il y a au fond deux Corées depuis cette date.
Alors justement, la guerre commence le 25 juin 50, mais si on en croit les archives soviétiques, Kim Il-sung, qui était le grand leader de la Corée du Nord, voulait envahir la Corée du Sud dès septembre 49, mais eut un veto de Staline.
Oui, parce qu'en fait, c'est intéressant d'avoir cette péninsule coupée en deux, parce que, en quelque sorte, cela crée un état tampon entre les possessions américaines, si l'on peut dire, ou les états que contrôlent les États-Unis, c'est-à-dire le Japon et puis la Corée du Sud, et d'autre part, le monde communiste, en gros, c'est-à-dire l'Union soviétique et puis la Chine à partir de 1949. Donc la réunification n'est pas quelque chose qui intéresse au premier plan Staline, et donc l'idée que le Nord puisse reconquérir le Sud lui paraît à Staline être potentiellement un risque de guerre et qu'il veut éviter avec les États-Unis. Et donc il empêche au début Kim Il-sung, qui est à vrai dire à l'époque une marionnette en son pouvoir, de procéder à cette réunification parce qu'il n'est pas sûr qu'il y réussisse et il craint que ça crée une guerre.
Et le 25 juin, donc, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud en arguant que c'est la Corée du Sud qui est attaquée. Un mensonge qui rappelle l'incident de Gleiwitz 11 ans plus tôt, quand l'Allemagne nazie envahit la Pologne en affirmant que c'est un émetteur radio qui a été attaqué par la Pologne.
Oui, en réalité, il est vrai que le Sud, qui est aussi une dictature autant que le Nord, a fait quelques démarches belliqueuses, mais dans les deux sens. En fait, les deux Corées s'agacent depuis 2 ou 3 ans, sans que forcément on imagine que ça puisse conduire à une guerre. Donc, effectivement, Kim Il-sung a attaqué le Sud, l'a envahi d'ailleurs très facilement, mais en arguant du fait qu'il avait été plus ou moins provoqué, et il y a quelques éléments qui le montrent, mais il a aussi provoqué le Sud.
D'accord, alors au départ, la Corée du Sud, vous venez de le dire, a été quasi totalement envahie. Comment arrive-t-elle à renverser la situation ?
Ah, elle était totalement envahie et désorganisée parce que le régime du Sud est une sorte de gigantesque caserne américaine et elle est incapable de réagir par elle-même. Et les troupes du Nord déferlent sur Séoul, ensuite sur tout le reste de la péninsule. Il n'y a qu'une ville, le port du Sud qu'on appelle Busan, qui résiste. Et à vrai dire, sans l'aide des Américains, le Sud n'aurait jamais tenu. Donc effectivement, quelques parachutistes aident dès le mois de juin la ville de Busan à tenir. Et puis, les Américains décident de réagir, demandent à l'ONU de créer une force internationale qu'à vrai dire, ils dirigent, confient cette force internationale au général MacArthur, le grand vainqueur de la guerre du Pacifique. Et celui-ci, une idée géniale, c'est de faire une opération de revers. C'est-à-dire qu'au lieu de débarquer au Sud, il débarque près de Séoul, prenant les troupes du Nord à revers, les coupant en deux, ce qui lui permet de les isoler et même de remonter au nord et d'attaquer le nord. Donc c'est grâce au général MacArthur et au débarquement d'Incheon en septembre 1950 que les États-Unis inversent le sort des armes.
Alors justement, les Nations Unies font des 5 ans plus tôt réagissent, pourtant l'URSS y bénéficie d'un droit de veto, pourquoi ?
Ah, bah parce que la constitution des Nations Unies ont donné aux grandes puissances un droit de veto, mais malheureusement, pour des raisons internes, enfin malheureusement pour l'URSS, celle-ci a décidé de pratiquer la politique de la chaise vide, de ne pas siéger à l'ONU. Et c'est en profitant de cette situation que les Américains parviennent à monter une force internationale sans être bloqués par le veto des Nations Unies.
Est-ce que c'est pas finalement une seconde guerre Est-Ouest en Asie avec la guerre d'Indochine qui a commencé presque 5 ans plus tôt ?
Il est certain que tous les Finistères asiatiques, qui sont au fond un point de contact entre ce qu'on pourrait appeler le continent universel que dirigent les Soviétiques et puis l'océan universel que contrôlent les Américains, oui, sont l'objet d'une guerre indirecte entre les deux blocs. Au fond, c'est le début, sans qu'on l'appelle comme ça, de la guerre froide entre les deux blocs, qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'affronter et qu'ils doivent trouver donc des alliés indirects pour s'affronter.
Pascal Daillé-Burgeon, est-ce que ça aurait pu tourner au conflit nucléaire, puisque l'URSS avait la bombe atomique, puisque les États-Unis avaient la bombe atomique?
Oui, l'atome est une des raisons aussi de la guerre. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, Staline ne voulait pas attaquer tant qu'il savait que les Américains avaient l'arme nucléaire qu'ils ont utilisée en 1945 pour obtenir la reddition du Japon. Mais en 1949, à l'été 49, ça y est, les Soviétiques ont la bombe. Donc du coup, ils se retrouvent à égalité. C'est un véritable danger parce que cette guerre qui au début semble triomphale pour le Nord tourne très mal puisque le débarquement du général MacArthur inverse le sort de la guerre et que celui-ci attaque le Nord et que presque l'entièreté de la Corée du Nord est occupée par les troupes américaines, ce qui implique du coup que la Chine intervienne. Bref, on est arrivé à presque une guerre mondiale et MacArthur, qui n'a pas véritablement compris exactement ce qu'est la bombe atomique, eh bien demande au président américain le droit de l'utiliser. Il dit, on va utiliser la bombe atomique à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine et on va en envoyer, non pas une, mais une vingtaine, peut-être même une trentaine. Comme cela, la Chine sera complètement bloquée. On pourrait même en envoyer sur Pékin à la limite. Et voilà, on va gagner la guerre en utilisant l'arme atomique. Et là, le président Truman comprend que non, ça ne va pas du tout parce que l'utilisation de la guerre atomique, c'est le low-cost nucléaire complet. C'est la mutual assured destruction. C'est
la destruction mutuelle assurée.
Plus personne ne gagne, donc il empêche absolument MacArthur d'utiliser la bombe atomique et heureusement, sinon le monde aurait été précipité dans une troisième guerre mondiale et un holocauste nucléaire, donc il n'est pas certain que nous le saurions relever. 30 bombes atomiques à la frontière nord-coréenne chinoise, c'est monstrueux, rien que d'y songer.
C'était complètement fou. Alors comment se termine le conflit le 27 juillet 1953 ?
Dès lors qu'on n'utilise pas la bombe atomique et que le président Truman décide de relever le général MacArthur, la guerre n'est plus qu'une guerre classique, une guerre d'affrontement, de tranchées pratiquement, le long de la frontière qui sépare les deux Corées, et qu'on pourrait résoudre tout de suite. Au fond, puisqu'on ni l'un ni l'autre, nous pouvons gagner, nous n'avons qu'à signer un armistice. Mais évidemment, il ne faut pas perdre la face. Donc pendant 2 ans, il y a une guerre de tranchées extrêmement violente entre les deux Corées, pour en arriver finalement en 53, vous l'avez dit, en juillet 53, à la signature d'un armistice qui est un statu quo. C'est-à-dire qu'en gros, on revient à la situation antérieure, comme si rien ne s'était passé. La frontière change un petit peu, mais sans plus. Donc en fait, c'est une guerre qui, en apparence, est un échec total, puisqu'elle n'a amené à rien, aucun bénéfice, ni pour l'un, ni pour l'autre.
Dernière question, une nouvelle guerre de Corée, c'est possible ?
Non, parce que cette guerre, certes, elle n'a servi à rien du point de vue frontalier, mais elle a causé un nombre invraisemblable de morts.
Près de 2 millions.
700 000 soldats, sans doute 2 à 2,5 millions de Coréens, c'est-à-dire 10% de la population de l'époque. C'est surtout le Nord, d'ailleurs, qui a été touché. Et les Coréens savent très bien que c'est un suicide collectif. Cette guerre a donné lieu, d'ailleurs, entre eux, à une épouvantable guerre civile, au-delà même de l'idéologie libérale ou communiste. Les vendettas traditionnelles, la haine des grands propriétaires, tout s'est réveillé. Il y a eu des morts dans tous les sens. Les gens s'assassinaient entre villes, entre villages, entre familles. C'est épouvantable. Les Coréens ont encore un souvenir très vif de cette guerre atroce et savent très bien qu'une nouvelle guerre, ça serait la fin de leur civilisation. Donc, en dépit de tout ce que nous dit le Nord, qui répète en permanence sur Radio Pyongyang, nous allons réduire le Sud dans un déluge de feu, ce n'est pas vrai. C'est de la gesticulation. C'est des messages qui sont envoyés aux Américains, aux Chinois, aux Japonais. Mais les Coréens eux-mêmes ont l'intime conviction qu'une nouvelle guerre serait la fin de leur culture et ils feront tout pour l'éviter au Sud comme au Nord.
Un suicide collectif. Merci beaucoup, Pascal Daillé-Burgeon, auteur de nombreux livres sur la Corée, dont Histoire de la Corée des origines à nos jours et de la dynastie rouge, un livre traduit en coréen. Dans la prochaine demi-heure, le livre du dimanche, Lauriane Lemprunt pour Renaissance, un livre plein d'espoir. Et ensuite, on aura la sélection musique de Bruno Dubois et évidemment Cécile Tardy. Restez bien avec nous sur Sud Radio.